Charlotte Poussin, vous êtes l'auteur de « Apprends-moi à faire seul, la pédagogie Montessori expliquée aux parents ». Alors, la méthode Montessori, elle a été créée dans la première moitié du XXe siècle. En quoi est-ce qu'elle reste pertinente pour les enfants d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que voilà, ça reste une méthode valable dans un monde qui a beaucoup changé?
Eh bien, c'est encore valable parce que ce que Maria Montessori a mis en lumière au début du XXe siècle, c'est le fait qu'elle avait découvert un enfant universel, qu'elle appelait l'enfant nouveau. Et, c'est-à-dire un enfant qui apparaît quand on laisse l'enfant libre de s'auto-éduquer, d'apprendre par lui-même et de développer ses potentiels.
Donc ça ne change pas.
Ça ne change pas. Un enfant auquel on fait confiance, et qui est un enfant épanoui, elle a des constantes, des qualités qui étaient les mêmes et qui sont les mêmes aujourd'hui, même si le contexte historique, évidemment, a complètement changé et que l'environnement dans lequel il grandit a une influence sur lui et fait qu'il a aussi des différences. Hein. Mais l'enfant auquel on fait confiance est un enfant épanoui, il y a un siècle et aujourd'hui aussi. Et il y a une phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup, qui est « l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir ». Ça, c'est toujours vrai. Elle reprenait Montaigne, qui dans les essais avait dit « l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, c'est un feu qu'on allume ». Et dans la formule de Maria Montessori, l'enfant est encore plus actif. C'est pas un feu qu'on allume, il n'est pas passivement allumé, c'est lui qui jaillit. Et du coup, on pourrait prendre une autre image. Si on voulait garder l'idée du vase, si l'enfant était un vase, c'est lui qui le remplirait. C'est-à-dire que ce qu'elle mettait en lumière, c'est que l'enfant est vraiment le constructeur de l'homme. C'est l'enfant qui construit l'adulte qui va devenir.
Et donc, est-ce que la valeur de l'approche de Maria Montessori aujourd'hui, c'est dans un monde où on demande aux enfants de grandir comme des adultes autonomes, confiants, créatifs, parce qu'on sait que voilà, ils vont être dans un environnement en changement où ce sera à eux d'être un peu les moteurs et les acteurs de leur vie. Est-ce que c'est de donner cette confiance, de donner aux enfants les moyens de voler de leurs propres ailes?
Oui, tout à fait. Je pense que le maître mot, c'est le mot confiance. Nous sommes persuadés que l'enfant est en mesure de s'auto-éduquer et d'apprendre par lui-même, grâce à ce que Maria Montessori appelait l'esprit absorbant. Maintenant, l'expression est vraiment consacrée, les enfants sont des éponges, ils apprennent en fonction de ce que l'environnement leur offre ou ne leur offre pas. Et ça a été confirmé par les neurosciences. On sait qu'il y a une synaptogénèse qui est une multiplication de connexions des cellules neuronales entre elles quand les synapses sont les plus fortes. C'est vraiment dans la période justement entre 0 et 3 ans. Et ensuite, ça continue jusqu'à la puberté où ça commence à baisser. Mais toute cette période de l'enfance, c'est vraiment le moment où l'enfant absorbe le stress, s'il y a du stress autour de lui, la joie, s'il y a de la joie autour de lui, la confiance qu'on lui donne se transforme en confiance qu'il a en lui et en confiance dans la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit pendant l'enfance, reste très solide.
Donc, c'est des années qui sont vraiment fondatrices, c'est ça, quoi, qui se passe ensuite.
Ce sont les années pendant lesquelles se consolide la base de toute sa colonne vertébrale psychique. Moi, je suis convaincue qu'on est avec un trésor de confiance en soi, d'estime de soi, de désir d'apprendre, de curiosité intellectuelle. On voit bien, les enfants, quand ils naissent, ce sont des explorateurs et des chercheurs, des scientifiques nés, ils cherchent en permanence, ils tâtonnent. Des hypothèses, ils les vérifient, ils réajustent en fonction de ce qu'ils observent, ils font des suppositions, ils explorent en permanence, à nous en donner le tournis parfois, mais c'est cette qualité-là qu'il faut préserver, à coup de « touche pas à ça, fais pas ça, c'est pas le moment, c'est l'heure de ci, c'est l'heure de ça », on casse cet esprit d'initiative, de création, d'innovation, de recherche qu'ils ont, et c'est ce sur quoi elle mettait l'accent « attention ». Il faut respecter ses élans, ce qu'elle appelait aussi les périodes sensibles. Le fait que les enfants sont attirés dans l'environnement par ce qui leur permet d'apprendre. Eux savent ce qui est bon pour eux. Et
Est-ce que ça veut dire que la pédagogie Montessori construit la confiance de l'enfant, ou en tout cas entretient sa confiance en lui, en le laissant libre de... Est-ce que c'est de progresser à son rythme, d'explorer à sa façon?
Oui, effectivement, ça préserve cette confiance en soi en lui permettant de respecter ses besoins. Ses besoins fondamentaux qui sont un besoin d'autonomie, un besoin de liberté. Alors, ce n'est pas la liberté de tout faire, c'est la liberté d'évoluer dans un cadre qui rend cette liberté possible. Ce n'est pas une approche permissive où l'enfant est roi, c'est vraiment un cadre préparé, ordonné, pour que l'enfant puisse y être autonome. C'est un travail qu'on fait en amont, sur l'attitude que l'on a, mais aussi sur l'environnement dans lequel l'enfant évolue, que ce soit une classe ou de la maison, qui permet de ne pas être amené en permanence à lui dire fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci. Voilà. Donc on essaie de mettre dans son environnement des choses qui lui sont favorables, stimulantes, et qui sont à sa disposition, adapté à sa force, à sa taille, et qui stimule cet esprit curieux qui est en lui.
Alors, on en a parlé assez spontanément sur fait sur parents du 21e siècle. J'insiste très souvent sur l'idée que aujourd'hui, les compétences scolaires, académiques restent importantes et nécessaires à maîtriser, mais que c'est plus suffisant pour réussir et pour s'épanouir dans le monde qui va attendre nos enfants. Et je parle de six compétences clés, six attitudes à développer chez les enfants, qui sont d'aimer apprendre, de cultiver sa créativité, de développer sa pensée critique, de savoir coopérer, de communiquer efficacement avec les autres, et la dernière qui est de vivre avec éthique. Dans toutes celles-là, on a beaucoup parlé de la confiance. Laquelle est-ce que, selon vous, ou lesquelles sont plus particulièrement cultivées dans la pédagogie Montessori?
J'ai envie de répondre très spontanément, toutes. Il n'y a pas d'échelle dans les qualités qu'on cherche à développer chez les enfants dans une ambiance montessorienne. Et elles sont toutes essentielles. Il n'y a pas numéro un, numéro deux. Je pense vraiment qu'on a une approche qui les prend toutes en compte. Parce que notre grand objectif, c'est d'avoir des enfants qui soient donc bon, confiants en eux, en la vie, qui aient beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui aient de la créativité, un esprit d'initiative dont on vient de parler, d'innovation, pour penser out of the box. Des enfants aussi qui développent beaucoup de qualités non académiques. Et en premier lieu, ce terme qui est très à la mode, et tant mieux, le terme d'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent. Il y a beaucoup de contresens sur l'approche Montessori, et des gens qui pensent que, comme c'est une école où l'enfant travaille à son rythme, travaille souvent de façon individuelle entre 3 et 6 ans, ce qui n'est plus du tout le cas, je précise, à partir de 6 ans, où il y a beaucoup d'activités collectives, les gens pensent que ça fait des enfants égoïstes, alors que c'est l'inverse. Ça fait des enfants qui ont vraiment un sens social et des qualités prosociales très développées, qui ont un esprit de corps avec la communauté, vivent, et qui développent vraiment non pas la compétition mais la coopération, non pas la rivalité mais la collaboration. On est loin de l'école où arriver à son petit copain ou l'aider ou lui poser une question, ça s'appelle tricher. Au contraire, on est dans une démarche où il y a, grâce au mélange d'âge, dans les ambiances Montessori, une collaboration, tutorat, un parrainage, une entraide permanente entre les enfants. Parfois entre un grand et un plus jeune, mais aussi entre des pères et aussi parfois un plus petit qui aide un plus grand. Il n'y a aucune notion de hiérarchie, en tout cas intellectuelle, hein, dans les apprentissages. Et puis, ça leur donne aussi un grand sens de l'organisation. Et ça développe beaucoup leur capacité à la concentration. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans un monde qui bouge dans tous les sens, où on est un
Et
peu
qui est
hyper
passé
stimulé, où les choses vont très vite. Les enfants, dans une ambiance Montessori, apprennent à travailler en open space et apprennent les règles de vie d'open space. À savoir, on est les uns à côté des autres, on est libre, certes, mais la liberté de chacun, s'arrête là où commence celle de l'autre. Elle ne peut pas porter préjudice à celle de l'autre, et ça, ils en sont conscients. Dès le nido, hein. C'est-à-dire que l'ambiance que l'on fait régner est propice à ce respect de l'autre. Parce que l'enfant est fondamentalement respecté, il apprend à respecter ses propres besoins, les prendre en compte, et tous ceux des autres. On en parle au quotidien. On parle aussi beaucoup de la gestion des émotions, de la gestion des conflits. Voilà. Et tout ça, c'est propice donc à cette concentration et à cet esprit social qui est vraiment, je pense, avec la créativité, l'esprit d'innovation, les qualités dont on a besoin au 21e siècle. Donc, ça permet tout ça d'avoir des potentiels et une personnalité vraiment harmonieusement développée. Et c'est vrai que c'est formidable d'avoir une tête remplie de connaissances, mais si on est complexé parce qu'on a été dans un système où les erreurs ont été beaucoup plus soulignées que les points positifs, si on a peur de prendre des initiatives parce qu'on a été trop souvent jugé, si on est devenu dépendant aux notes, si on est devenu dépendant à l'évaluation extérieure, à la tape dans le dos, au compliment, on est tout de même moins bien barré. Pour évoluer dans cette société où je pense tout le monde va devoir créer son métier finalement, hein, à long terme.
Alors Charlotte, on a parlé beaucoup de confiance en soi, de cultiver sa créativité, l'envie d'apprendre. Est-ce que la pédagogie Montessori va aussi développer l'esprit critique des enfants?
Oui, tout à fait, parce que l'enfant est considéré comme une personne dont la parole a une grande valeur. Et ce, dès la tendre enfance. On écoute l'enfant en se mettant à sa hauteur, on apporte une grande importance au contact visuel, et l'enfant est compris dans ses émotions aussi. Il y a un grand travail sur la gestion des émotions, une qualité d'écoute et une qualité d'échange qui fait qu'il sent qu'il a une valeur et que sa pensée, que son avis compte.
Et ça lui permet d'affûter sa réflexion, c'est ça?
Exactement, ça l'incite à développer sa pensée critique et ça confirme le fait que réfléchir est important. Et puis, l'esprit absorbant dont on a parlé tout à l'heure se transforme progressivement en ce que Marianne Montessori appelait l'esprit comprenant. Et c'est important, on en parle moins, mais c'est très important vraiment à partir de 5-6 ans, l'enfant développe une très grande soif intellectuelle et il a envie d'élargir son champ d'exploration, il se pose des questions physiques, mais aussi métaphysiques, il explore un univers toujours plus large, c'est important de le laisser suivre cet élan et de l'aider à chercher ses réponses, de pas toujours les donner.
Cette bascule, elle se fait de façon spontanée ou est-ce qu'elle doit être aidée, encouragée par l'adulte?
Alors, elle est les deux. C'est-à-dire qu'elle se fait de façon spontanée chez tous les enfants. Ça a vraiment été observé. Hein. Marie Montessori a décrit les plans de développement. Il y en a quatre. Il y en a un de 0 à 6 ans et un de 6 à 12. Et c'est vraiment au moment de la bascule de l'un à l'autre que ça se passe. Mais c'est tout de même étayé par l'environnement et par la proposition de l'adulte. D'où l'importance de connaître ces étapes de développement et les caractéristiques de chacun. Et cet esprit, moi, je décris beaucoup, je suis en train d'écrire un livre sur Montessori pour les 6-12 ans avec deux co-auteurs qui sont vraiment spécialisés sur cette tranche. C'est vraiment important de souligner ça. Et sinon, tout au long de l'approche Montessori, il y a quelque chose de fondamental qui est aussi propice au développement de la pensée critique, et auto-évaluation, c'est le contrôle de l'erreur.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle de l'erreur? Parce que quand on pense erreur, on pense tout de suite sanction, stylo rouge et pas punition, mais presque.
Oui, mais alors justement, là, c'est l'auto-contrôle de l'erreur, et c'est une erreur qui n'est vraiment pas considérée comme une faute, comme une bêtise, comme quelque chose de mal, mais comme une étape vers la réussite. Et l'erreur, c'est du tâtonnement. Et on apprend tous par... Essai-erreur, c'est la base de l'apprentissage. Et les enfants en sont conscients. Quand on apprend à marcher, on trébuche, on tombe, on se relève, on n'en fait pas toute une histoire, c'est un non-lieu. Et bien, c'est la même chose pour tous les apprentissages. Donc, quand on s'exerce, On n'a absolument pas besoin de stylo rouge, on peut travailler au clair-papier, on n'a pas peur de rayer ou d'effacer, on est vraiment dans une démarche de tâtonnement. Et c'est une erreur qui est conçue non pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme quelque chose de nécessaire pour apprendre. Et ça stimule, quand l'enfant voit qu'il se trompe, ça le stimule à recommencer, à relancer l'activité.
Et alors cet auto-contrôle où l'enfant se rend compte de lui-même qu'il y a une erreur et où il a envie de recommencer, de continuer à tâtonner jusqu'à ce qu'il y arrive, ça se fait comment dans l'approche Montessori?
Alors, ça se fait soit par le biais du matériel qui, lui, permet à l'enfant de s'auto-corriger, c'est-à-dire que soit c'est mécanique, par exemple, un puzzle dans une boîte, une fois qu'il est terminé, la boîte doit se fermer. Si le puzzle est mal fait, la boîte ne se ferme pas. Donc ça, ce sont des astuces vraiment pratiques. Et l'autre chose, c'est dans l'attitude de l'adulte. C'est le fait de ne pas prendre systématiquement l'habitude de dire « c'est bien, bravo ». Bien sûr, on encourage l'enfant, mais sans créer de dépendance ni à la note, puisqu'on ne note pas dans l'approche Montessori, mais ni à la félicitation. On préfère dire « Ah, tu dois être content de toi, que penses-tu de ton travail ? Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Qu'est-ce que tu ressens ? T'as vu, c'est chouette, c'est sympa. » Plutôt que « Je suis content de toi, je suis fière de toi. » Non, c'est plutôt « Tu dois être fière de toi. » Et c'est par des toutes petites formulations de langage comme ça qui ont l'air anodine, mais qui en fait sont très très lourdes de sens, c'est-à-dire que l'enfant naît en ayant envie d'apprendre pour lui-même, et avec des tas de petites phrases, on le détourne de cette automotivation et on l'incite à apprendre pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à son enseignant, pour faire plaisir aux autres, pour être admiré, et non pas pour alimenter cette immense, immense source de plaisir qu'on ressent quand on est satisfait de ce qu'on a fait.
L'adulte dans une approche Montessori va se situer plus dans l'encouragement que dans le compliment, c'est ça?
Exactement. Observation et encouragement. Observation pour constater que l'enfant a une difficulté, revenir avec lui sur la difficulté, pas forcément à brûle pour point, tout de suite, en intervenant, en disant non, là tu t'es trompé, ou non, là, peut être à un autre moment, ni vu ni connu en fait. C'est toute l'idée, c'est d'être très présent pour l'enfant qui cherche et presque absent pour l'enfant qui a déjà trouvé. C'est très subtil, hein. C'est pour ça que ça demande une grande préparation, une grande préparation pour avoir cette bonne attitude juste. C'est aider sans trop aider, aider au bon moment.
Charlotte, pour les parents qui sont déçus par l'école traditionnelle, qui envisageraient de scolariser leur enfant dans une école dite alternative, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner? Quels seraient les critères de choix? Sur quel point est-ce qu'il faut être vigilant? Et puis, quelle démarche adopter pour choisir, entre guillemets, la bonne école, celle qui offrira cet environnement riche et stimulant, porteur dont vous parlez?
Alors, je pense que la première chose, c'est de visiter l'école. Je pense que l'intuition est essentielle. Il y a des ambiances, on sent très bien. Je pense qu'il est important de rencontrer la direction de l'école, les enseignants, de veiller à la qualité de leur formation, à leur diplôme, mais aussi à leur qualité. Je pense que ce qui est important pour la formation, c'est qu'elle ait été assez longue, que les enseignants aient fait des stages, qu'ils aient eu des temps de manipulation supervisés, qu'ils aient eu vraiment le temps de faire un travail de reconversion intérieure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir été formé à manipuler ou à présenter le matériel Montessori, qui est extrêmement riche et qui effectivement nécessite une grande préparation, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que je me méfie pas mal des formations trop courtes qui se limitent justement à la maîtrise du matériel. Parce que si le matériel est utilisé de manière didactique, on est très très loin de l'approche Montessori où l'essentiel c'est le libre choix de l'activité par l'enfant, où on présente le matériel et ensuite c'est l'enfant qui l'explore à son rythme.
Est-ce qu'en France, il existe des formations qui sont réputées ou des formations solides pour les enseignants, entre guillemets, hein? un label de qualité de formation qui puisse rassurer les parents, qui soit un bon indicateur de la qualité de fonctionnement de l'école?
Écoutez, moi, je n'ai pas la prétention de connaître tous les centres de formation, mais la formation que j'ai faite, je l'ai trouvée très qualitative, et c'est celle qui est dispensée par l'ISMM, qui est affiliée à l'Association Antisocial Internationale. Je pense qu'à partir du moment où il y a une affiliation à l'Association Montessori Internationale créée par Maria Montessori, il y a tout de même un gage de qualité.
L'ISMM, c'est l'Institut Supérieur Maria Montessori, c'est bien ça pour ceux qui ne connaissent pas?
C'est bien ça, il y en a un à Nogent-sur-Marne, près de Paris, un à Lyon et un à Montpellier qui ouvre en septembre. Voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte l'expérience hein, des enseignants. Bon, bien évidemment, il y en a qui peuvent être à peine formés et déjà formidables. Hein. c'est pas mathématique tout ça. De la même manière qu'une personne qui a fait qui a le diplôme et qui n'a pas fait un travail complet de changement de regard sur l'enfant. Voilà. Il y a aussi des personnes qui sont montessoriens de nature, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, moi j'en ai rencontré, qui travaillaient dans des écoles Montessori en tant qu'assistants, voilà, qui n'avaient pas fait la formation, qui avaient déjà vraiment cette attitude de respect total de l'enfant. Voilà. Donc,
D'accord, donc pour choisir... Intuition, c'est-à-dire se faire confiance sur voilà, est-ce que je en tant que parent, je me sens à l'aise dans cette école, dans la relation avec la direction, les enseignants. Et puis, donc diplôme, expérience des enseignants qui sont des faisceaux de critères. Voilà, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais...
Exactement, et puis les qualités des enseignants, l'équipe éducative, quoi, avec un véritable esprit de service, de la bienveillance, une patience. Ça se ressent. Et puis aussi, le fait d'être attrayant, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui vont être un trait d'union entre l'enfant et le matériel qu'ils vont proposer, qu'ils vont leur présenter. Et ça nous amène au matériel. C'est aussi très important de visiter les classes et de voir que le matériel est soigné, bien ordonné, classé par R, avec la disparatie d'un côté, le sensoriel, le langage, les maths, de l'autre. Il y a aussi une présence des sciences, de la géographie, de la musique, de l'art. Tout ça, c'est vraiment présent. Et puis, être vigilant aussi à l'emploi du temps, au planning, parce que ce sont des indicateurs tout de même de sérieux, dans la mesure où il est vraiment important qu'il y ait une période de 2h30 à 3h qui soit dégagée tous les matins pour que les enfants puissent travailler en autonomie. Il ne s'agit pas d'avoir des ateliers Montessori une heure et demie par-ci, une heure par-là. C'est vraiment des grandes tranches de travail. Donc, veillez aussi à ce qu'il n'y ait pas de cercle trop souvent, de cercle en début de matinée. C'est des points de vigilance et des bons indicateurs aussi.
Est-ce qu'on peut demander à visiter l'école quand les enfants y sont, c'est-à-dire pour réellement sentir quel est le climat dans l'école et pas uniquement se baser sur... un entretien, par exemple, avec le directeur ou la directrice de l'école qui va présenter son école. Mais est-ce qu'on peut aller demander à visiter en situation pour mieux se rendre compte de la façon dont ça se passe dans l'école?
Alors, c'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup, auquel je suis très favorable. Moi-même, en tant qu'éducatrice, j'ai été très, très observée et ça ne me posait aucun problème. Mais je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, il y a un tel engouement que les demandes sont... si nombreuses que je pense qu'il est devenu difficile de gérer, à moins d'être une classe de verre avec des observateurs en permanence, difficile de gérer pour la direction de l'école cette demande récurrente. Parce que entre les journalistes, les parents prospects, les curieux, il y a énormément de demandes d'observation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer, mais si on arrive à l'obtenir, c'est bien, parce que c'est vrai que ça permet bien de se rendre compte de ce qui se passe dans l'école.
D'accord, donc au-delà de ce qu'on peut lire ou entendre dans les médias, c'est une méthode qui suscite un réel intérêt.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Disons qu'il y a depuis 8 ans à peu près. J'en parlais justement récemment avec des personnes qui me confirmaient ce sentiment depuis 2010, 2011, 2009, ouais, dans ces eaux-là. Il y a vraiment une prise de conscience générale de la qualité de cette approche. Il peut
Est-ce qu'il
être
s'est passé quelque chose à ce moment-là? Il y a eu un tournant, un événement?
intéressant. Oui, il y a eu la crise, je pense.
Ah,
La
ok.
crise, hein, vraiment, hein. Les gens sont devenus inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Et puis, les résultats de PISA, année après année, toujours aussi inquiétants. Donc, il y a eu une grande prise de conscience qui a eu lieu il y a plus longtemps. Au Canada, par exemple, où j'ai vécu longtemps, les parents sont vraiment conscients du fait qu'investir dans la petite enfance, c'est investir à long terme. Et comme ils payent tous, parce que l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans, ils sont tous déjà dans une démarche de recherche. Si je veux scolariser mon enfant avant 6 ans, si je veux mettre toutes les chances de son côté, ils sont déjà des chercheurs de pédagogie, parce que ils choisissent de mettre ou de ne pas mettre leur enfant à
Ils
l'école
sont
avant
en
6 ans
position de
et tel
choisir.
genre d'ambiance. C'est pour ça que là-bas, donc, ça est très développé. C'est-à-dire que, on a énormément de chance en France, hein, d'avoir une école gratuite, de bonne qualité, qui fait que les gens se posent moins de questions, mais l'écueil, c'est que les parents ont mis plus longtemps à prendre conscience de la nécessité d'être extrêmement vigilants sur la qualité de l'ambiance que posent les enfants. En termes de confiance à l'enfant, justement. Alors maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est garder notre école accessible à tous, mais à développer des pédagogies de l'enfant on a beaucoup parlé de ses qualités, nous on croit beaucoup au fait qu'il a un potentiel extraordinaire, mais il a aussi une grande vulnérabilité. Et cette confiance en soi avec laquelle il arrive, elle est très fragile. Et je pense que la plupart des adultes n'ont pas pris la mesure de la fragilité de ce trésor qu'est la confiance en soi, alors que c'est vraiment le moteur qui va nous permettre d'avancer toute la vie. C'est beaucoup plus difficile à reconstruire qu'à préserver. Bien sûr. Bien sûr.
Un grand merci, Charlotte.
Merci beaucoup, Magali.